Je pense que je suis dans votre sentiment en remerciant M. Prost pour cet admirable exposé où il y a matière à réfléchir, il y aura probablement matière à discuter. Et j'invite M. Didier Vivier à nous parler de son sujet. Monsieur Vivier appartient à l'Université libre de Bruxelles, si je ne me trompe. Il s'est distingué en participant aux fouilles d'Itanos et en réfléchissant en même temps sur la sculpture, toujours. Et il a publié notamment un livre très important sur les ateliers des sculpteurs de la cité d'Athènes à l'époque archaïque. Il va nous entretenir maintenant d'un retour sur l'offrande aux dieux en aparché ou en décaté. Je vous en prie.
Merci. À relire Jean-Pierre Vernant, comme nous y encouragent les organisateurs de ce colloque, je remercie très sincèrement pour l'honneur qu'ils me font aujourd'hui, non seulement les organisateurs, mais l'ensemble des collègues et amis de Jean-Pierre Vernant. À relire Vernant, on pourrait être frappé par la place relativement réduite qu'il consacre aux monuments votifs, à ce que l'on a l'habitude d'appeler les dédicaces. C'est un peu comme s'il s'était évertué à tourner autour de cette pratique de l'offrande en nous aidant tantôt à comprendre le sacrifice, tantôt à déchiffrer le sens de la représentation et de l'image. C'est pourquoi j'ai choisi d'aborder cette pratique précisément dans une session qui s'intéresse à l'image et à la représentation. Plutôt que d'aborder l'image pour éclairer l'offrande, je voudrais revenir sur l'offrande telle qu'exprimée par les mots, comme Vernant l'avait fait pour la mort et la représentation funéraire, pour tenter de préciser la nature de la représentation et rappeler ainsi, très modestement, quelques apports essentiels, du moins à mes yeux, de la contribution de Jean-Pierre Vernant à notre compréhension de la sculpture grecque. Partons ainsi, si vous le voulez bien, d'un corpus bien connu qui présente le grand avantage de mêler étroitement deux modes de communication que nous devons considérer comme complémentaires, les mots et les objets. Ce corpus, c'est celui des monuments et objets consacrés aux dieux sur l'Acropole d'Athènes à la fin de l'époque archaïque et au début de l'époque classique. Parmi ces documents, sélectionnons-en un, peu prestigieux, je vous le concède, mais d'un intérêt pourtant réel. Il s'agit d'une base unique supportant deux statues de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, et vous lisez l'inscription « Lucias anetheken athenaiai aparchen » Evarchis anetheken decaten athénéen. Cette inscription ne semble a priori poser aucun problème et n'a de fait, sinon récemment, généré aucun commentaire particulier. On traduira Lysias a dédié une statue à Athéna en aparché, Evarchis a dédié une autre statue. Il y a deux traces de statue à Athéna en décaté. Et si l'on se reporte à l'étude fondamentale de Maria Letizia Lazzarini sur les formules dédicatoires votives de la Grèce archaïque, on constate que « aparché » et « décaté » sont traduites toutes deux par « offrande ». Lysias et Evarchis ont donc chacune fait une offrande à Athéna. La base qui porte l'inscription conserve bel et bien la trace de deux encastrements de statues qui renvoient vraisemblablement au caractère double de cette dédicace. Pourtant, alors que les deux dédicants répètent le même verbe pour décrire leur action, anetheken, alors qu'ils répètent le nom de la divinité à laquelle ils consacrent leur statue, Athéna, ces deux dédicants prennent le soin de distinguer l'aparché de la décaté. On ne peut pas croire, face à un souci si peu présent de la variété, que cette nuance ne recouvre une véritable signification. Certes, l'aparché et la décaté peuvent constituer des offrandes, comme on le dit à l'unisson, Mais il n'est pas du tout évident qu'il s'agisse du même type d'offrande. Je dirais même, au contraire, que c'est la différence de nature de l'offrande qui justifie la duplication de la formule et sans doute de l'objet consacré. Ceci pose dès lors, d'entrée de jeu, la question de la différence entre une aparkei et une dekatei, en dépit de leur traditionnelle traduction par un terme unique. La traduction de la dekatei ne semble pas poser de problème majeur. Il s'agit d'une dîme. La première attestation sur un objet dédié est, à ma connaissance, et on en a déjà parlé tout à l'heure, cette statuette de bronze de la fin du 8e siècle ou du début du 7e, conservée à Boston et bien connue sous le nom d'Apollon de Manticlos. Je ne m'y attarderai guère, mais je voudrais souligner néanmoins qu'en dépit, voici l'inscription, qu'en dépit des traductions courantes, et je cite ici celle de Margherita Guarducci, le mot « decata » est ici au génitif. La statuette n'est donc pas la décatée proprement dite, mais sans doute une partie de celle-ci, ou la concrétisation d'une dîme versée par ailleurs. Il n'est donc sans doute pas aussi évident que la décatée corresponde toujours et exactement à l'objet dédié, et ce même lorsque le mot décatée est au nominatif en apposition de l'offrande. On peut donc s'accorder à ce stade sur le fait que la décatée n'est probablement pas n'importe quelle offrande, et qu'il convient sans doute d'y reconnaître une véritable dîme, c'est-à-dire le dixième de quelque chose qui ne semble toutefois jamais déterminé. On notera de surcroît qu'au moment où ces dédicaces en guise de décatée fleurissent sur l'acropole d'Athènes, la tyrannie athénienne, si l'on en croit l'auteur de la Constitution d'Athènes, et d'ailleurs aussi Thucydide, prélevait précisément une décatée sur les produits de la terre. Et sans entrer ici dans un débat qui concernerait la préhistoire de la taxation dans les cités grecques, il n'est pas interdit de penser que la perception de cet impôt s'inspire largement de la pratique de l'offrande. C'est en tout cas le sens du témoignage du pseudo-Aristote de l'économique qui note que Cypselos, le tyran de Corinthe, avait dédié à Zeus les dîmes annuelles qu'il percevait sur les biens des Corinthiens, Corinthiens qu'il avait obligé, et c'est très important, à établir une déclaration de patrimoine. C'est important, et nous y reviendrons, parce que dans ce cas, comme probablement de manière générale, c'est précisément le versement de la dîme qui assurait le droit à la propriété du reste du patrimoine, tout comme l'offrande au dieu par le tyran lui assurait symboliquement le pouvoir sur toute la communauté corinthienne, comme l'explique d'ailleurs très clairement ce passage de l'économique. En comprenant la décatée comme un type d'offrande bien particulier dont le montant correspondait à un véritable dixième, nous expliquerions également une curieuse inscription peu connue sur une coupe attique de la fin de la période archaïque découverte à Olbia et dédiée à Apollon Delphinien. C'est là la seule attestation, du moins à ma connaissance, d'une dédicace en guise d'Eikostè, alors que le scribe, vous le voyez, allait probablement écrire décatei, et puis il s'est ravisé. Cette attestation, pour isolée qu'elle soit, nous fait entrevoir, par contraste, la signification, sans doute plus précise qu'on ne le croit généralement, des dédicaces en guise de décatei. L'Eikostè, comme la Pentecostè, est par ailleurs une taxe bien connue. On peut donc conclure provisoirement que ces dédicaces en décatée semblent vouloir conserver la mémoire d'une dîme au dieu qui, si l'on se réfère à l'usage civique, concerne sans doute les citoyens et se rapporte aux productions et partant vraisemblablement à la propriété. Mais si la décatée recouvre une signification relativement précise et définit un type d'offrande particulier, il doit alors en aller de même pour l'aparkei. L'interprétation est ici plus délicate. La traduction de « prémisse », on en conviendra, est assez floue, du moins par opposition à ce qui semble se dégager de la « décatée ». On se tournera alors tout d'abord vers Hérodote, dont deux passages nous éclairent sur l'aparkei. Dans le livre 1, paragraphe 92, il rappelle l'aparkei de Crésus au sanctuaire de Delphes, selon une formulation sur laquelle il convient sans doute de revenir un instant. Et je traduis: les monuments que Crésus érigea alors et à Delphes et dans le sanctuaire d'Amphiaréos, tantôt lui appartenaient en propre, tantôt constituaient l'aparkei de l'héritage de ses ancêtres. tandis que les autres offrandes, anathemata, tiraient leur origine d'un homme ennemi de son pouvoir qui s'était posé en rival face à lui avant qu'il ne règne dans une conjuration qui voulait porter Pantaléon à la tête des Lydiens. Cette distinction entre l'origine du financement des offrandes de Crésus n'est pas inintéressante, dans la mesure où elle nous fait voir que l'aparché est ici plus particulièrement associé à la transmission de biens, une transmission qui, en quelque sorte, est validée par le dieu à travers une opération votive. Cette interprétation se renforce à la lecture d'un autre passage d'Hérodote, au livre 4, qui relate la manière dont Darius récompensa l'architecte samien Mandroclès, responsable de la construction du pont sur le Bosphore lors de l'expédition contre les Scythes. Le grand roi lui avait offert 10 cadeaux dont Mandroclès était acquitté de l'aparché en dédiant à l'Héraïon un tableau qui relatait l'épisode. À nouveau, Hérodote définit ici l'origine du financement de l'aparché, un don prestigieux du roi, lui-même évoqué dans la dédicace. L'aparché, plus qu'une simple offrande, semble donc fonctionner comme la validation d'une transmission, d'une acquisition de biens, tantôt par héritage, tantôt en conséquence d'un don. Et sur cette base, je pense qu'il convient de reprendre notre corpus athénien pour en scruter les mentions d'aparché et noter tout d'abord qu'elles sont relativement nombreuses. Sur les 393 dédicaces sur Pierre de l'Acropole, on en compte quand même environ 65, soit un petit peu plus de 15%, mais les pourcentages sont peu significatifs, mais retenez les chiffres absolus, dont 2/3 sont absolument sûrs, j'entends, sans restitution, sans proposition de restitution. Ces dédicaces sont aussi particulièrement concentrées dans le temps. Vous le voyez, au dernier quart du VIe siècle et au premier quart du siècle suivant. Elles concernent des dédicants femmes et hommes. Elles se retrouvent sur beaucoup de types de bases, sur des colonnes, sur des bases peu élevées, des piliers de type A, B, des bassins aussi, ce qui n'est pas inintéressant. Et elles précisent souvent l'origine de l'offrande. Ici, une saisie en mer. Là, une acquisition, on le voit ici, voilà, on auto kteanon. Une acquisition, ailleurs des dons, comme l'inscription numéro 296, qui renvoie directement à l'exemple de Mandroclès avec les dons, et une inscription qui en appelle de surcroît, malheureusement dans un texte mutilé, à la déesse contre quiconque mentira, sans doute à propos de la légitimité de la propriété en question. Le mot renvoie aussi, et on ne s'en étonnera pas, à un tribut que certains barbares, selon Thucydide, au livre 6, versaient aux Syracusains. Ce sens apparaît encore au IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans le contexte du sanctuaire d'Apollon à Delphes. Les Delphiens, octroient au grammairien Ménandros, fils de Daidalos, à Carnanien de Tyréon et à ses descendants, conformément à l'oracle des gens de Cassopée, une série de privilèges associés aux proxènes et aux évergètes de la cité. Les raisons de cet honneur sont détaillées par l'inscription. Lors d'un séjour à Delphes, Ménandros a donné des cours sans accepter de salaire en retour de la part de la cité. C'est ici la circonstance spécifique qui nous intéresse. Je traduis ce passage. Alors que résidant à Delphes, il avait fait l'aparché de sa leçon tant au dieu qu'à la cité. Alors comment comprendre le texte ? Ménandros, qui, rappelons-le, est un étranger, n'a pas fait sa leçon en aparché. Il a fait l'aparché de sa leçon. Ceci nous renvoie aux multiples formes de génitifs que nous avions retrouvées dans les exemples précédents et qui indiquaient la source de financement de l'aparché, ce sur quoi elle est prélevée. Ici, il s'agit d'une leçon et d'un droit de prélèvement de la cité et du sanctuaire sur toute activité exercée à Delphes, tout particulièrement pour les étrangers. Il s'agit d'une sorte de taxe sur le revenu de sa leçon. Il n'en apparaissait que plus méritant, aux yeux de la cité, d'avoir renoncé à tout salaire tout en ayant payé l'impôt. La taxe n'est autre qu'une manière de valider la jouissance du revenu, de garantir devant le dieu et par lui la propriété de ce sur quoi on fait l'aparché. Le tribut barbare aux Syracusains n'était probablement pas autre chose. En échange de son versement, c'est une forme de protection qu'ils obtenaient, soit la possibilité de continuer à jouir de ce qu'ils avaient. Fort de ce détour par le sanctuaire delphique, on en reviendra ainsi à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, et tout d'abord en Crète. En Crète, où nous avons également une attestation épigraphique intéressante de la Parquée. Il s'agit d'un texte très riche, que l'on interprète à tout le moins pour certaines parties comme un contrat de travail, celui d'un scribe, d'un poinikastas, qui manie une technologie orientalisante, probablement encore rare en cette fin du VIe siècle, dans la petite cité de Datala. Ce texte définit les conditions d'appartenance à la cité de ce scribe et précise qu'il fournira pour droit d'accès à l'Andréon, dikea Andréon, 10 double haches de viande lorsque les autres fourniront la parquée. La parquée apparaît donc comme une contribution qui consistait sans doute à l'apport d'une part du repas commun, un paiement en échange de l'accès à l'Andréon, qui définit particulièrement concrètement, bien évidemment, un statut. On peut donc percevoir, à travers l'usage archaïque de la parquée, une forme de contribution, perçue sans doute davantage sur les échanges de biens ou comme taxes spécifiques, plutôt que sur la propriété ou le produit de la terre qui semble concerner la décatée. Sans que nous soyons en mesure de préciser, je ne le prétends nullement, vraiment la différence, pour autant réelle, entre la parquée et la décatée, il s'agit dans les deux cas d'un prélèvement spécifique opéré sur un bien ou une production évouée aux dieux. L'intérêt de ces monuments votifs, c'est ainsi l'opération de conversion, de change, si l'on veut, qu'ils réalisent à partir d'un patrimoine, pour faire court, soumis au prélèvement. Rappelons que Mandroclès fit réaliser un tableau en aparqué commémorant l'occasion qui lui valut les cadeaux du grand roi. Ces catégories spécifiques d'offrandes valident un droit de possession ou de jouissance, et le monument votif est là pour en conserver la trace. Ainsi, ce que nous appelons couramment offrandes, à savoir ces monuments de tout genre, petits ou grands, sculptés ou simples objets déposés et souvent élevés à Natitemi, à la gloire du Dieu, pourraient ne pas devoir être systématiquement limités à eux-mêmes. J'entends par là qu'ils pourraient renvoyer à un acte rituel de dévotion plus large, dont le monument n'est en fait que la partie commémorante. Souvenons-nous de la formulation bien particulière de la toute première dédicace en guise de décaté que Manticlos faisait au 7e siècle. Rappelons aussi, en renvoyant à l'étude de Stella Iorgudi dans le volume de Tescra, que vers 460, avant Jésus-Christ, un corps d'officiel d'Éleusis, dénommé Hieropoioi, était chargé de contrôler sur l'acropole d'Athènes l'argent sacré de la parquée. Selon Stella, ces Hieropoioi recevaient la parquée, constituée des contributions en céréales que tous les dèmes de l'Attique et d'autres cités grecques envoyaient chaque année au sanctuaire d'Éleusis et à ses deux déesses. Ces mêmes Hieropoioi faisaient inscrire les quantités d'orge et de froment reçues sur des tablettes, remplissant ainsi un rôle de comptable et d'administrateur financier. Mais surtout, il vendait, en accord avec le conseil athénien, une partie des céréales apportées pour pouvoir consacrer aux déesses des ex-votos, comme nous l'apprend d'ailleurs une inscription de la fin du 5e siècle et selon la décision de l'Assemblée du peuple. Le monument votif, tout comme la publication sur marbre des inventaires, peut donc constituer parfois une sorte de complément ou de mémoire sociale de l'acte de dévotion. C'est sans doute bien plus la partie visible de l'iceberg que l'iceberg lui-même. En d'autres termes, à partir du moment où on admet que la terminologie de nos dédicaces renvoie à une variété de types d'offrandes, c'est le sens de l'offrande qui s'en trouve éclairé. Plus que le seul signe d'une dévotion, plus que la nécessité de marquer un statut social par le prestige d'un don, il s'agirait aussi de confirmer, devant et par le Dieu lui-même, certains droits, et parmi eux, sans doute le plus important, le droit à la propriété. En consacrant une part d'un bien spécifique, c'est la jouissance du reste que l'on garantit. L'offrande, et partant le monument votif, joue alors un rôle de validation de certains droits. Et il n'est peut-être pas tout à fait anodin que la mise en place de la taxation du metoikion corresponde grosso modo à la disparition des offrandes en aparquet sur l'acropole. Rappelons qu'Aristote, ou l'un de ses élèves, ne dit rien d'autre dans la Constitution d'Athènes lorsqu'il évoque, en citant une inscription de l'époque archaïque, la consécration d'Anthémion, fils de Diphilos, qui avait élevé la statue d'un cheval en l'honneur des dieux au moment où il avait accédé à la classe censitaire des hippéis. Et cette lecture nous permettrait également de mieux comprendre la présence d'offrandes d'artisans sur l'acropole d'Athènes à la fin du VIe siècle. Cette question a été très longuement débattue et je ne doute pas qu'elle le sera encore beaucoup. Ces dédicaces étaient-elles la preuve d'une réussite sociale particulière de certains artisans? Or, si l'on s'intéresse tout d'abord aux 7 inscriptions qui mentionnent des métiers, on constate que 3 d'entre elles relèvent de la décathée, une de la parquet, que l'état de conservation d'une autre ne permet pas de trancher, ce qui fait qu'il n'y a que 2 inscriptions qui ne mentionnent pas le type d'offrande. Si l'on ajoute alors à ces différentes catégories les céramistes, les potiers, ce sont alors au moins 23 dédicaces, Rabicek pense qu'il y en a plus, mais je crois qu'il faut serrer le corpus, supplémentaires qu'il convient de traiter, parmi lesquels 2 en décathée et 2 autres si l'on restitue correctement, 3 en aparquet, sans doute 5 autres si l'on restitue correctement, 8 cas sans qu'on puisse dire grand-chose, et 4 dédicaces seulement, sans mention du type d'offrande. Ainsi, sur les 15 inscriptions qui ne posent pas de problème majeur de lecture, seules 4 ne mentionnent pas le type d'offrande. 3 sont des décataïs et 8 des aparcaïs. Il faut donc au moins relever que les offrandes de ces artisans ne sont pas n'importe quelles offrandes et qu'elles pourraient avoir eu pour but premier de valider un revenu ou une propriété et partant un statut, non par le seul prestige de l'objet dédié, mais par un mécanisme plus précis que j'ai tenté de mettre en évidence et qui assure la jouissance d'un bien par prélèvement d'une part. Ceci vient compléter l'image particulièrement complexe du sanctuaire à l'époque archaïque, qui joue manifestement un rôle de régulation. Tout d'abord des relations entre les dieux et les hommes, et bien vite des relations entre les hommes eux-mêmes, qui prennent les dieux comme garants. Au passage, ceci nuance peut-être l'emphase actuelle, et à laquelle j'ai participé aussi, donc je le dis à l'aise, signe de notre temps, que l'on est de plus en plus souvent amené à placer sur l'aspect compétitif des pratiques diverses en jeu dans le sanctuaire. N'interprète-t-on pas aujourd'hui trop systématiquement la présence d'objets de luxe, d'offrandes de prestige dans les sanctuaires comme le résultat de pratiques ostentatoires qui soulignent, par le déploiement de richesses, la puissance de certaines familles? La société grecque est certes agonistique, mais c'est là une sorte, je dirais, de penchant naturel des individus, que Jean-Pierre Vernant expliquait notamment par cette caractéristique de l'homme grec de se définir par ses actes et par l'écho que ceux-ci recueillent. Doit-on pour autant fonder sur ce principe de construction de l'individu la construction sociale elle-même? Ne doit-on pas au contraire tenter de dégager ce qui a permis aux Grecs de gérer les conflits? Et n'était-ce pas là l'un des rôles du sanctuaire? Il me semble utile de rappeler ici, comme l'avait fait Maurice Godelier, que le pouvoir s'établit et se conserve surtout par le consensus. La société grecque, comme toute société, en expérimentant un ensemble de codes visant à reproduire le groupe, est avant tout contractuelle. Elle a dès lors recherché à établir des pratiques et des lieux de régulation des relations entre individus, y compris de leur richesse. Plus peut-être qu'elle n'a finalement suscité la confrontation. Ian Morris avait déjà émis l'hypothèse selon laquelle le transfert des objets de prestige dans la sphère collective à la fin du 8e siècle avait pu répondre à une pression sociale et à l'émergence d'idéologies égalitaristes. Il ne faut en effet jamais perdre de vue que la richesse n'est admise dans la société grecque qu'à la condition de servir la collectivité. La richesse, en tant que marqueur de disparité et d'injustice, est mal perçue. Le sanctuaire a dès lors pu jouer un rôle essentiel dans la régulation nécessaire des richesses et offrir ainsi aux riches propriétaires l'occasion de justifier leur fortune par un don à la divinité, et ce d'autant plus que celle-ci endossait la charge de protectrice de la communauté. Plutôt que d'y reconnaître une sorte de surenchère à l'ostentation qui, par la démonstration de richesse, renforcerait le statut du dédicant, on pourrait mettre davantage l'accent, du moins dans certains cas, sur le rôle de régulateur social du sanctuaire qui, dans certaines cités, et l'histoire comparative n'est ici sans doute pas sans vertu, tenterait de légitimer les inévitables inégalités. On offrirait du même coup au principe des liturgies et, de manière générale, à celui de l'impôt, une profondeur historique en y reconnaissant une forme de transfert au cœur de la cité et de ses besoins d'une pratique auparavant limitée au sanctuaire. Que les sanctuaires aient servi par validation divine, de truchement à l'établissement des statuts de la propriété et partant au renforcement des statuts sociaux, ne semble d'ailleurs nullement excessif au IVe siècle encore, dans le cas des procès pour défection de la dike apostasiou. Un patron avait le droit d'entamer une procédure judiciaire contre un affranchi qui ne serait pas resté auprès de son patron ou qui aurait choisi un autre patron. Si le patron gagnait le procès, l'affranchi était alors condamné à retomber en esclavage, tandis que dans le cas contraire, il gagnait sa liberté complète. Il devait alors consacrer une fiale commémorative d'une valeur de 100 drachmes, et nous bénéficions ainsi d'une longue liste de consécrations d'offrandes entre 330 et 322. Ici aussi, le nouveau statut des individus était validé par une consécration. Revenons alors en conclusion sur ces anathemata dont nous avons conservé les témoins archéologiques, sur ces monuments d'ampleur variée qui peuplent les sanctuaires. Comme l'avait déjà relevé Jean-Pierre Vernant, le statut mémorial des consécrations est essentiel. On soulignera à ce propos le rôle fondamental de la base de tout monument votif, car c'est elle qui traduit en quelque sorte la nature de l'objet dédié au Dieu, en concrétisant l'anathème, ce qui a été érigé, posé vers le haut. La terminologie grecque, rappelons-le, reste en cette matière très attachée à un geste précis, et ne traduit pas l'intention comme offrande témoigne de la volonté d'offrir. Cette fonction de témoin du monument, donc, renvoie sans doute bien davantage au statut du dédicant, à sa timée, qu'à l'individu lui-même. En ce sens, nous rejoignons le portrait que nous avait dressé Jean-Pierre Vernant de l'homme grec qui se construit à travers ses actes et l'image qu'il renvoie. Toute définition de l'individu par référence à un statut relève en effet de cette catégorie, ce qui explique sans doute en partie la complexification constante des statuts civiques ou simplement sociaux dans le monde grec. On en revient alors inévitablement à l'image, qui en tant que forme symbolique fait partie de cette construction sociale et du mode d'expression du statut. Nous avons eu l'occasion de voir comment l'iconographie pouvait être suscitée à de telles fins, l'érection d'un cheval sculpté dans le marbre, la consécration d'un bœuf coulé dans le bronze renvoie, on le sait depuis longtemps, et on l'a encore rappelé ici, au statut du dédicant. La chose est apparue moins évidente dans le cas de corail de l'Acropole, et récemment encore, une étude plaidait résolument en faveur de leur identification avec la déesse principale du lieu. Ces jeunes filles, parées d'une diversité de costumes dont on ne peut imaginer qu'elles soient totalement gratuites, me semblent toutefois évoquer simplement bien davantage les familles impliquées dans l'érection des monuments que la divinité elle-même. Qu'est-ce qui distinguerait la statue funéraire d'une jeune fille qui surplombe la tombe de Phrasicléa dans un cimetière de l'Attique, d'une corée de l'Acropole, à cette différence que la seconde n'est jamais nommée? Les processions nous montrent suffisamment le rôle essentiel que détenaient les filles dans le contact avec la divinité et la procession des Panathénées en tout premier lieu, que ce soit pour les citoyens ou pour les métèques. Rien ne s'oppose donc à concevoir ces corailles comme les évocations, plus ou moins précises, du statut d'une famille que valide aux yeux des hommes la consécration aux dieux. L'expression plastique est donc tout autant symbolique dans le cas des offrandes aux dieux que dans celui des monuments funéraires qu'avait étudié Jean-Pierre Vernant. Mais il ne faudrait pas limiter la forme symbolique à l'image. Voilà bien longtemps que les historiens de l'art, comme Erwin Panofsky, pour n'en citer qu'un, ont montré que le style est lui-même une forme symbolique. À ce titre, il ne faudrait pas sous-estimer l'impact des aspects plus proprement formels sur la définition de la consécration et, partant, sur celle du dédicant. Le style est une composante forte de la nature du lien civique. Athènes n'a pas, contrairement à d'autres cités, développé un style unitaire et fortement différencié. Elle a davantage mis en contact, à la manière des cités coloniales ou, comme dans les sanctuaires, diverses expressions stylistiques qui trouvaient probablement leur origine dans la variété de la population attique elle-même. Si je suis plus que jamais convaincu de l'importance culturelle du rendu stylistique dans l'expression plastique, je pense que nous devons continuer cependant à nous interroger sur son lien avec la nature des sociétés qui produisent ces œuvres. Aussi faut-il réfléchir à ce que j'appellerais les conditions pratiques de l'émergence d'un style. Il y a bien sûr les éventuelles stratégies sociales qui guident certains choix, pour ne pas dire certains goûts, et l'on y a beaucoup insisté ces derniers temps. Mais il y a peut-être aussi, de manière plus profonde et plus révélatrice, la place du monde artisanal dans la société en question. Une place qui pourrait refléter ou expliquer l'importance de l'objet, pour faire vite, dans la construction des statuts sociaux. Si l'on veut bien prendre en considération le dossier des consécrations d'artisans sur l'acropole d'Athènes que j'évoquais ici, on ne peut qu'admettre son exceptionnelle importance à la fin de la période archaïque. C'est aussi, du reste, l'époque où les signatures d'artisans sont les plus nombreuses dans la société athénienne, dont le comportement est relativement exceptionnel par rapport au reste du monde grec. Si l'on se fonde sur une conception traditionnelle de l'offrande, on y reconnaîtra l'affirmation d'une réussite de certains artisans, voire d'une conscience affichée, d'une forme de statut privilégié que l'on manifeste par sa dévotion à la déesse protectrice des artisans. Et la floraison de signatures irait alors dans le sens de cette revendication d'un art d'exception. Mais reprenant l'ensemble du dossier de ces signatures d'artisans dans le monde grec, on constate qu'elles visaient bien davantage à accroître le prestige des clients à travers un type de commande spécifique qui place l'artisan dans une relation contractuelle bien différente du simple achat d'un produit et partant l'intègre indéniablement dans le jeu des relations sociales telles qu'il s'exprime à travers les productions artisanales. Les consécrations d'artisans, tout comme leurs signatures, me paraissent ainsi davantage valider leur place au sein de la société athénienne et leur statut. Au-delà de l'expression spécifique d'un prestige lié à la qualité du travail réalisé, il faut, je crois, envisager ces marques de présence des artisans comme la trace de la place qui leur est accordée dans la société athénienne, en raison sans doute de l'importance que prend le monument, funéraire ou votif, dans l'établissement des statuts sociaux. Que le statut des artisans soit alors consacré, lui aussi, sur l'acropole, ne surprendra guère. Comme vous l'aurez compris, je n'ai pas choisi de commenter tel ou tel aspect de la pensée de Jean-Pierre Vernant, j'en suis bien incapable. Mais lorsque celui-ci décidait de consacrer ses leçons au Collège de France, à l'image et donc aux objets, il ouvrait la voie à une approche de la société grecque selon une multiplicité de codes symboliques au sein desquels le récit n'offrait qu'une voie parmi tant d'autres. L'objet lui-même était ainsi relu par Vernant, perçu comme instrument d'un dialogue social et donc porteur en lui-même d'un sens historique. Vernant préparait ainsi, finalement, le terrain au développement de ce que les anglo-saxons appellent aujourd'hui l'archéologie contextuelle. En revenant à mon tour sur l'offrande aux dieux, je voulais surtout souligner l'importance de cette démarche qui, en fin de compte, donne à l'archéologie, et de manière presque inattendue, une place primordiale dans l'œuvre de Jean-Pierre Vernant. Je vous remercie.